Les informations, Claude Doucet.
Assemblée nationale, c'est aujourd'hui que sera adoptée la loi sur la répression des violences sexuelles, une loi qui précise les choses pour permettre aux victimes de pouvoir porter plainte. Une chaire des droits de l'homme dans les universités des provinces de l'Est du pays, une table ronde de confirmation a eu lieu la semaine qui s'achève. La chaire fonctionnera dès l'année académique prochaine. 500 cas de choléra et déjà 5 morts, c'est à Goma. Cette épidémie est due à l'absence de chloration de l'eau du lac, les produits faisant défaut. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à Radio Okapi. La loi sur la répression des violences sexuelles examinée hier vendredi n'a pas été adoptée. L'adoption de cette loi est programmée pour ce samedi. Un seul article reste encore à examiner, mais l'Assemblée nationale veut garder secret la nature de l'article en question. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, elle se réjouit de la loi sur la répression des violences sexuelles qu'elle qualifie de supplément au code pénal. Philomène Omatoukou, interrogée par Donna Madimba.
Bon, la loi n'est pas adoptée puisque nous espérons encore que la commission va compléter l'avant-dernier article concernant une certaine matière.
Est-ce que le nombre assez faible qui est resté jusqu'à présent est aussi à la base de la non-adoption de la loi?
Non, puisque nous n'avons pas envisagé de terminer aujourd'hui. Nous allons terminer demain, donc il n'y a pas de problème.
Et selon vous, qu'est-ce que cette loi adoptée pourra apporter de neuf en matière de répression des violences sexuelles?
Bon, c'est-à-dire beaucoup plus de précision pour permettre aux victimes de porter plainte. Avant, la loi était très vague, c'était des notions très vagues. Maintenant, vraiment, c'est détaillé. Il y a beaucoup de précisions dans ces amendements à la loi pénale, beaucoup de précisions sur les faits, les actes de violence dont les victimes pourront plus aisément prouver.
En attendant, répression, c'est le pasteur Coutinho Fernando qui est condamné à 20 ans de prison, dont 10 non négociables. C'est là l'essentiel du jugement rendu hier à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa par la chambre foraine du tribunal de garnison militaire de Kinshasa-Gombe. Il statuait en premier degré en matière répressive dans l'affaire qui opposait Coutinho Fernando de l'armée de la victoire à Ngalassi de la Louange, tous deux pasteurs, pour tentative d'assassinat de ce dernier par Coutinho. Je vous propose de suivre un extrait du jugement rendu en l'absence des prévenus de leurs avocats, propos recueillis par Mimi Ngumba Moulongo.
Et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, seule la peine la plus forte est prononcée, soit 20 ans de servitude pénale principale avec 10 ans de durée minimale de sûreté incompressible. C'est-à-dire que pendant 10 ans, le prévenu ne peut prétendre à une quelconque remise de peine. Le condamne également au paiement de 50 000 francs congolais représentant les frais et dépenses de la présente instance, payables dans la huitaine, ordonne la confiscation en faveur des FRDC des armes et munitions de guerre saisies à cette occasion, confirme sa détention.
Notons que sont condamnés avec le pasteur Coutinho, son traducteur Bompé Rembo, condamné à 10 ans, et un sergent. Trois autres personnes en fuite ont été condamnées, elles aussi à 20 ans de prison. Un acquitté, c'est le premier sergent-major Sawa Anekonzapa. Je vous propose à présent de suivre la réaction de l'avocat du pasteur Coutinho, maître Guy Katumbay, joint par Mireille Boukassa.
Notre client ne se faisait plus d'illusions sur le verdict. Bon, maintenant, c'est plutôt un sentiment de soulagement pour lui, évidemment, de pouvoir ne pas bouger ainsi et espérer qu'au niveau de la juridiction supérieure, pour pouvoir se défendre valablement, et cela ne semblait plus être garanti au niveau du tribunal qui vient de rendre son verdict.
C'est-à-dire que vous passez à la prochaine étape, c'est laquelle?
Ben oui, nos clients vont interjeter appel et nous serons devant la cour militaire de la Gombe qui est directement supérieure au tribunal militaire de garnison de la Gombe qui a rendu ce verdict.
Affaire donc à suivre. À l'Équateur, grogne des magistrats du tribunal de paix de Bumba. Ils manquent de tout pour travailler, ils sont obligés de siéger sous un arbre. Cela fait suite à l'incendie au pillage de leurs bureaux les mois passés par des démobilisés sous le coup de la colère. Depuis, aucune disposition de réhabilitation de leur palais de justice n'a été prise. Ajoutez à cela l'insécurité dont ils sont l'objet de la part des agresseurs. Ces derniers circulent encore librement sans être inquiétés. Pour sa part, le procureur général près la cour d'appel de Mbandaka, Carlos Ikobia, s'en remet à l'autorité provinciale pour la réhabilitation des bâtiments qui ont été détruits. Hier, alors qu'on célébrait la Journée internationale de l'enfant africain, Radio Okapi s'est penché sur le sort des enfants en prison. Trois se trouvent actuellement dans la prison centrale de Bukavu, âgés de 17 ans. Ils sont poursuivis pour meurtre et coups et blessures. Pour certains, ils croupissent depuis près de 2 ans dans cette prison sans assistance ni scolarisation. Dieudonné Bagalois les a rencontrés. Reportage.
Dans la prison de Bukavu, le cas le plus frappant est celui d'un enfant condamné à la peine de mort. Ancien enfant soldat, il a été arrêté à l'âge de 15 ans pour avoir tué un autre enfant soldat. C'était il y a 2 ans à Kamituga, dans le territoire de Mwenga. Aujourd'hui, les yeux hagards, il dit ne pas savoir combien de temps il a déjà passé en prison. Il dit aussi avoir tiré par mégarde sur son collègue qui tentait de lui arracher son arme. Il n'a pas fait appel car sa famille est trop pauvre. Anaclé Likirie, juge d'enfants de Bukavu.
Ces enfants qui commettent ces infractions, leurs parents, irresponsables dans la plupart, sont aussi irresponsables financièrement. Et ils sont incapables d'indemniser les victimes. Nous sommes obligés de reprendre les enfants, de les maintenir en détention.
Au manque d'assistance juridique, s'ajoute le problème de la scolarité de ces enfants détenus, ainsi que le manque de nourriture et de soins. Pour le juge d'enfants, les mineurs ne devraient pas être en prison avec des adultes, mais plutôt dans des centres de rééducation. Dieudonné Bagalois, Bukavu, Radio Okapi.
Les universités de l'Est de la République démocratique du Congo prêtent à accueillir une chaire des droits de l'homme. Une table ronde s'est tenue à ce sujet à Goma du 14 au 15 juin dernier. Elle réunissait une vingtaine de délégués des universités de Bukavu, Kisangani, Isiro et Goma. La première expérience de ce nouveau poste académique dans les facultés des droits commence l'année académique prochaine. Mais en attendant, le directeur du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, qui soutient le projet, revient au micro de Moïse Mutunga sur le bien fondé de cet espace d'enseignement des droits de l'homme.
Nous avons décidé, à travers le projet de l'Union européenne, de créer cette chaire ici à l'Est, parce que premièrement, le projet concerne les 4 provinces de l'Est, et deuxièmement, parce que, comme vous le savez, l'Est a beaucoup souffert des conflits armés en RDC, et il était nécessaire, n'est-ce pas, d'avoir un organe de plus à l'Est pour faire la dissémination, l'enseignement, l'éducation aux droits de l'homme, pour renforcer la culture des droits de l'homme et consolider la paix en formant les étudiants. On espère toucher la majorité de la population parce que ces gens-là, ils viennent seulement à l'université, ils apprennent, ils retournent non seulement dans leur famille, mais ils retournent dans la communauté où ils vivent au jour le jour. Donc, on compte sur eux.
À Kinshasa, l'ASBL New Afro Vision, en collaboration avec l'Association des théologiens catholiques laïcs, ATCL, a procédé hier vendredi à la séance académique d'ouverture de la chaire Jean-Paul II. Cette chaire ouverte à tous est une institution créée pour permettre à tous les chercheurs et étudiants de lire, de consulter, de travailler sur les œuvres du pape Jean-Paul II. Il s'agit aussi de rendre hommage à ce pape qui a marqué la fin du XXe siècle. Au micro de MNCA, Jean-Pierre Lemba, président de l'ASBL New Afrovision, donne quelques objectifs que s'est assigné la chaire Jean-Paul II.
La chaire Jean-Paul II entend offrir aux scientifiques, théologiens, philosophes, sociologues, anthropologues, psychologues, politologues, économistes, médecins et j'en passe, un horizon, un creuset idéologique dans lequel ils peuvent s'épanouir et exprimer leur foi qui aiguillonnera la lecture intelligente du vécu africain pour que l'on comprenne bien qu'après avoir entendu la parole de ce grand vicaire général du Christ, les hommes de culture et les scientifiques marcheront avec lucidité à travers toutes les vicissitudes du combat pour la survie des personnes, des communautés et des États.
C'était là Jean-Pierre Lemba, président de l'ASBL New Afrovision, qui a lancé hier, en collaboration avec l'ATCL, l'Association des théologiens catholiques laïcs, la chaire Jean-Paul II. Déjà plus de 500 cas de choléra et 5 morts enregistrés depuis le 4 juin 2006 à Goma. Selon l'inspection de la santé, la recrudescence du choléra à Goma est due à la consommation de l'eau du lac Kivu non traitée. Le traitement de l'eau du lac se faisait au moyen du chlore avec des agents préposés, mais la chloration a été suspendue depuis septembre 2005. l'UNICEF et Solidarité ont repris la chloration de l'eau sur plusieurs points au bord du lac depuis 48 heures, mais c'est pour 3 mois seulement. Qu'adviendra-t-il après les 3 mois d'urgence? Le docteur Saïdou Diallo de l'UNICEF Goma répond au micro de Charles Andridge.
Nous espérons que dans les 3 mois, avec l'intervention de tous les partenaires, y compris l'UNICEF, nous arriverons à contrôler cette épidémie de choléra. Il faudrait que des solutions durables effectivement soient trouvées, mais dont la solution dépasse vraiment l'UNICEF. Avant la fin du projet, il y aura des concertations avec les différents partenaires pour voir comment est-ce qu'il faut continuer en fait ce projet, donc pour assurer la chloration des sites d'eau. On espère que au bout de ces 3 mois, qu'une solution sera trouvée ensemble avec les autres partenaires et aussi les autorités provinciales du Nord Kivu.
Docteur Saïdou Diallo de l'UNICEF Goma. La cité de Zongo, au nord-ouest de l'Équateur, rencontre beaucoup de difficultés dans le domaine de la santé. C'est à cause de son isolement dans cette cité de 50 000 habitants à peu près, qui vit aux dépens de Bangui, la capitale de la Centrafrique. Le sida touche sensiblement la population féminine qui, pour survivre, doit souvent traverser le fleuve dans le but de trouver un homme qui les sorte de la misère. Il faut aussi ajouter toutes les pathologies que le manque de moyens rend parfois impossible à traiter. Engo Banza, médecin-inspecteur urbain de Zongo, lance un appel depuis longtemps, appel qui ne semble pas trouver d'écho. On l'écoute encore une fois.
Dans le cas des urgences, par exemple, et s'il faut espérer avoir un kit, donc le premier centre d'approvisionnement pour nous ici, c'est l'antenne de Bouamanda, qui se retrouve comme par hasard à 280 km de Zongo. Donc nous n'avons pas de moyens de transport aérien, donc il faut que ça vienne par route. Et par véhicule, route, jeep, il faut compter au moins 48 heures, même le médicament. Si le gouvernement doit nous envoyer le médicament de Kinshasa pour arriver à Zongo. Donc vous comprenez que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour nous, ce qui fait que la situation maintenant, nous avons un problème de médicaments, un problème de matériel, et nous cessons de lancer des cris d'alarme auprès de la hiérarchie pour voir comment ils peuvent nous aider. Et en entendant, bon, nous faisons les yeux doux à nos confrères de Bangui, parce que ils ne peuvent pas accepter de laisser mourir les gens. Donc, officieusement, ils nous aident quand même, mais officiellement, nous continuons à dépendre de Mbandaka et de Kinshasa.
Espérons que pour cette fois, l'appel de Engo Banza, médecin-inspecteur urbain de Zongo, sera entendu. Ces propos ont été recueillis par notre consoeur Anne-Marie Amoros. Au Kasaï oriental, pour terminer, polémique, un candidat député aux élections législatives a pris l'initiative de réhabiliter un pont, le pont Kashindi, mais avec du matériel de l'Office des routes. Cette initiative divise l'opinion du territoire de Lusambo. Les uns accusent le candidat député d'avoir détourné ce matériel pour effectuer ce pont dans le but de s'attirer de voix lors du vote, mais d'autres applaudissent l'initiative. Ils trouvent plutôt ce geste salutaire au regard de la dégradation de cette infrastructure. Explication, Julien Nyamouni.
Le pont Kashindi, construit à date des années 50, aujourd'hui, il est dans un état de délabrement très avancé. L'Office de route, direction provinciale du Kasaï oriental, attend le réhabiliter en 1997 face à la dégradation de cet ouvrage. M. Kende Mobikisi, candidat aux élections législatives, a sollicité auprès de l'administration du territoire l'autorisation de réhabiliter ce pont avec les matériaux entreposés par l'Office des routes depuis plusieurs mois, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. D'autres candidats, dont Louis Kassonde, estiment qu'en cette période préélectorale, il est hors de question qu'un individu utilise le matériau entreposé par une société d'État pour réhabiliter ce pont. Il s'agit selon lui d'une manière d'acheter des consciences à la veille des échéances électorales. Il faut, dit-il, faire une étude de faisabilité et permettre à toutes les filles et fils de contribuer pour sa réhabilitation. Pour sa part, M. Kende Mobikisi a obtenu l'aval de l'administrateur du territoire de Lusambo. Selon lui, le souci majeur qui l'a amené à poser cet acte n'est pas politique, mais celui de réhabiliter un ouvrage d'une importance économique indiscutable pour son territoire. Julien Nyamouni, Mbujimaï, Radio Okapi.
Voilà, c'est avec ce reportage de Julien Nyamouni que nous mettons un point final à ce journal. Nous avons parlé de l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui que sera adoptée la loi sur la répression des violences sexuelles. Une chaire des droits de l'homme dans les universités de province de l'Est du pays. Table ronde de confirmation a eu lieu la semaine qui s'achève. La chaire fonctionnera dès l'année académique prochaine. 500 cas de choléra et déjà 5 morts. L'épidémie à Goma est due à l'absence de chloration de l'eau du lac. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous.